Chapitre 2. Edward avait 38 ans quand il rencontra Azena Swaite. Elle avait, je crois, environ 23 ans à ce moment et suivait un cours de métaphysique médiévale à Miskatonic. La fille d'un de mes amis l'avait déjà rencontrée à l'école Hall de Kingsport et avait eu tendance à l'éviter à cause de sa mauvaise réputation. Elle était brune, de petite taille et très belle malgré ses yeux protubérants. Mais quelque chose dans son expression éloignait d'elle les personnes les plus sensibles. C'était toutefois surtout ses origines et sa conversation qui poussaient la plupart des gens à l'éviter. Elle était une des Waite d'Innsmouth. De sombres légendes se transmettent depuis des générations à propos de la ville d'Innsmouth, croulante et à demi désertée, et de sa population. Il y est question d'horribles commerces vers 1850, et d'un élément étrange et pas tout à fait humain dans les vieilles familles du port de pêche en déclin. Des histoires telles que seuls les Yankees d'autrefois peuvent les concevoir et les raconter dans toute leur terrifiante étrangeté. Le cas d'Azenath était aggravé par le fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, enfant tardive d'une épouse inconnue qui ne se montrait que voilée. Ephraim vivait dans un manoir à moitié ruiné de Washington Street à Innsmouth. Et ceux qui avaient visité l'endroit, les gens d'Arkham évitent de se rendre à Innsmouth quand ils le peuvent, déclaraient que les fenêtres du grenier étaient toujours condamnées et que d'étranges bruits provenaient parfois de l'intérieur quand arrivait le soir. Le vieil homme passait pour avoir été jadis un prodigieux étudiant dans le domaine de la magie, et des légendes attestaient qu'il pouvait à volonté lever des tempêtes en mer ou les apaiser. Je l'avais vu une ou deux fois dans ma jeunesse, quand il venait à Arkham consulter des livres interdits à la bibliothèque de l'université, et j'avais détesté son visage animal, lunaire, avec sa barbe grise en broussailles. Il était mort fou, dans des circonstances assez étranges, juste avant que sa fille, faite de par sa volonté son principal héritier, n'entre à l'école. Mais elle avait été son élève avec une avidité morbide, et par moments elle lui ressemblait d'une façon diabolique. L'ami dont la fille était allée à l'école avec Azena Swaite se mit à raconter de curieuses choses quand il commença à se savoir qu'Edward la fréquentait. Azena, semblait-il, se présentait à l'école comme une sorte de magicienne, et il semblait qu'elle fût vraiment capable d'accomplir des prodiges tout à fait étonnants. Elle se disait capable de déclencher des orages, bien que ses succès apparents étaient généralement plutôt attribués à un mystérieux don de prédiction. Tous les animaux la détestaient visiblement, et elle pouvait faire aboyer n'importe quel chien, rien qu'en effectuant certains mouvements de sa main droite. Parfois elle affichait des connaissances et un langage très singulier et très choquant pour une jeune fille. Elle effrayait ses camarades par des œillades ou des clins d'œil ambigus, et semblait tirer de sa présente situation une sorte d'ironie grisante et obscène. Plus étonnant étaient toutefois les cas bien attestés de l'influence dont elle était capable sur les autres personnes. Il est hors de doute qu'elle était douée d'un véritable pouvoir hypnotique. En fixant intensément une de ses camarades, elle pouvait souvent lui donner la sensation d'un échange de personnalité, comme si le sujet se retrouvait momentanément dans le corps de la magicienne, voyant à l'autre bout de la pièce son véritable corps, les yeux protubérants, flamboyant d'une expression étrange. Azenath faisait souvent des déclarations étonnantes sur la nature de la conscience et sur sa propre indépendance du monde physique, ou au moins sur les processus vitaux liés à ce monde physique. Sa plus grande rage toutefois était de ne pas être un homme, car elle pensait qu'un cerveau mâle avait des pouvoirs cosmiques uniques et beaucoup plus profonds. Avec le cerveau d'un homme, déclarait-elle, elle ne pourrait pas seulement égaler, mais surpasser son père dans la maîtrise de forces inconnues. Edward rencontra Azenath lors d'un rassemblement de l'Intelligentsia dans la chambre de l'un des étudiants, et il ne put parler de rien d'autre quand il vint me voir le jour suivant. Il l'avait trouvée pleine d'intérêt et d'érudition pour les domaines qu'il affectionnait particulièrement, et était de plus fortement attiré par son charme. Je n'avais jamais vu la jeune femme et me souvenais à peine de remarques fortuites entendues à son sujet, mais je savais qui elle était. Il me semblait assez regrettable que Derby fût à ce point bouleversé par elle, mais je ne dis rien pour le décourager, car l'opposition ne fait qu'attiser cette sorte de passion. Il me dit qu'il n'avait pas parlé d'elle à son père. Dans les quelques semaines qui suivirent, le jeune Derby ne me parla que d'Azenat. D'autres avaient maintenant remarqué les amours automnales d'Edward, bien que tous reconnaissaient qu'il était loin de faire son âge, et semblait tout à fait assorti avec celle qu'il suivait comme une étrange divinité. Il avait seulement un peu d'embonpoint malgré son indolence et son laisser-aller, et son visage était absolument dépourvu de rides. Azenat, en revanche, avait déjà les pattes d'oie qui viennent de l'exercice d'une intense volonté. Vers cette époque, Edward me présenta la jeune fille, et je pus constater tout de suite que l'intérêt qu'il lui portait n'était pas sans réciprocité. Elle le couvait continuellement d'un regard presque prédateur, et je perçus que leur intimité était fusionnelle. Peu après, je reçus une visite du vieux monsieur Derby, que j'avais toujours admiré et respecté. Il avait entendu parler de la nouvelle amitié nouée par son fils et avait demandé au garçon de lui dire l'entière vérité. Edward voulait épouser Azenat et recherchait même une maison dans le faubourg. Connaissant la forte influence que j'avais généralement sur son fils, il se demandait si je ne pouvais pas aider à rompre un projet aussi mal avisé, mais j'exprimais mes doutes avec regret. Cette fois, il ne s'agissait pas de la faible volonté d'Edward, mais de la forte volonté de la femme. Ce grand enfant avait transféré sa dépendance de l'image parentale à une nouvelle image plus forte, et il n'y avait rien à y faire. Le mariage eut lieu un mois plus tard, un mariage civil à la demande de la mariée. Monsieur Derby, sur mon conseil, ne s'y opposa pas, et il assista, ainsi que mon épouse, mon fils et moi-même, à la brève cérémonie, les autres invités étant des jeunes gens extravagants du collège. Azenat avait acheté la vieille maison Crown and Shield dans la campagne au bout de High Street, et ils se proposèrent de s'installer là après un court voyage à Innsmouth, d'où ils ramenèrent 3 serviteurs, des livres et du mobilier. Ce ne fut probablement pas tant pour montrer de la considération envers Edward et son père qu'Azenat s'installa à Arkham au lieu de retourner définitivement chez elle. C'était plutôt par désir personnel d'être proche du collège, de sa bibliothèque, et de ses amis sophistiqués. Quand Edward me rendit visite au retour de sa lune de miel, je le trouvai sensiblement changé. Azenat lui avait demandé de se débarrasser de sa maigre moustache, mais il y avait plus que cela. Il semblait plus sérieux et plus pensif, son habituel mou d'enfant rebelle, remplacé par ce qui ressemblait presque à une véritable sagesse. Je ne savais pas si ce changement me plaisait ou non. Certainement, il ressemblait plus à un adulte normal que jamais auparavant. Peut-être le mariage était-il une bonne chose. Ce changement de dépendance pouvait en effet constituer un nouveau départ, pouvant conduire enfin à une indépendance responsable. Il vint seul, car Azenat était très occupée. Elle avait apporté de nombreux livres et appareillages d'Innsmouth. Derby frissonnait quand il prononçait ce nom. Et elle terminait la restauration de la maison Crown and Shield et de son terrain. Sa demeure dans cette ville était un endroit plutôt répugnant, mais certains objets qui s'y trouvaient lui avaient appris des choses surprenantes. Maintenant qu'il était guidé par Azenat, il progressait rapidement dans sa connaissance de l'ésotérisme. Certaines expériences qu'elle projetait étaient très audacieuses et radicales. Il ne se sentait pas libre de les décrire. Mais il avait confiance à la fois dans les pouvoirs et dans les intentions d'Azenat. Les 3 serviteurs étaient vraiment étranges. Un couple incroyablement âgé, qui avait connu le vieil Ephraïm et qui parlait parfois à mots couverts de lui et de la mère décédée d'Azenat. Et aussi une jeune bonne au teint sombre et au visage difforme, qui semblait répandre une perpétuelle odeur de poisson.